Salut, moi c'est Alice Vacher et dans l'empreinte, j'essaie de comprendre comment les marques s'engagent et agissent concrètement dans la transformation positive de notre société. Mon objectif est simple, décortiquer et mettre en lumière les initiatives sociales et environnementales des entreprises pour vous inspirer et vous éclairer sur ces sujets. Allez, c'est parti! Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir François Gabart, l'un des plus grands skippers français. Et tu as un palmarès exceptionnel, François, je ne vais pas le répéter, je pense qu'on va en parler. Je suis absolument ravie de te recevoir enfin dans L'Empreinte.
Bah moi aussi, je suis ravie.
Après toutes ces années.
Merci.
Alors, on va parler d'impact, on va parler de voile, on va parler de tout ce que tu veux déjà, premièrement. Quel est ton dernier plus grand projet réalisé ?
Ah, c'est difficile de d'imaginer la taille des projets. Si on parle d'impact, alors, le grand dernier dans ma casquette de marin, la dernière course que j'ai pu faire, c'est la Roue du Rhum en novembre, il y a quelques semaines.
J'ai suivi.
Forcément, ça c'est peut-être ce qui a été le plus médiatisé et ce qui est, avec ma casquette de marin, le plus évident. Et après, il y a plein de choses entre-temps qui ont été lancées. Je pense par exemple, j'ai cofondé l'entreprise Vela dans le transport maritime à la voile.
Il y a combien de temps ça ?
Il y a quelques semaines, c'était justement pendant la Route du Rhum, ça a été lancé. Donc c'est il n'y a pas très très longtemps. Et voilà, ça fait partie des sujets, des projets, des grands projets, en tout cas des grands projets d'avenir qui me passionnent, tout comme les sujets qu'on traite en effet. Alors là, c'est ma casquette d'entrepreneur, donc que ce soit avec Vela ou avec Merconcept.
Merconcept qui fait...
Qui construit. Voilà. Merconcept, c'est ma société. On est une écurie de course au large. On imagine, on conçoit, on construit des bateaux de course, des bateaux sur lesquels j'ai la chance de naviguer, le trimaran SVR Les Arctiques, par exemple, sur lequel j'ai fait la Route du Rhum il y a quelques semaines. Mais aussi pour d'autres marins et d'autres bateaux. Je pense à Charlie Dalin, par exemple, avec Apivia, qui a terminé deuxième du Vendée Globe et qu'on accompagne pour le prochain Vendée Globe. Mais Merconcept, c'est pas que ça. Et on a aussi des projets dans le maritime. Donc un projet en partenariat avec Vela, par exemple, dont je viens de parler. L'idée, c'est de faire du transport à la voile, donc vraiment du fret
décarboné
maritime.
Complet, quoi.
Exactement, c'est en tout cas 100% à la voile. On prend une marchandise, une palette, dans un port en France et on l'amène aux États-Unis. On s'est concentré sur cette ligne pour le moment, les échanges entre la France et les États-Unis. Et notre objectif, c'est de, comme en course au large, sur le même principe, c'est une fois qu'on est sorti du port, on hisse les voiles et on se déplace uniquement avec la force du vent.
Et j'imagine qu'il y a un plus long délai, du coup, pour recevoir ces palettes ou pas forcément ?
Alors, pas tant que ça. Forcément, je pense, et ça c'est important, il faut accepter de ralentir d'une manière assez globale dans nos échanges et mondiaux. Mais en fait, aujourd'hui, justement, la voile est assez performante. Ça, c'est ce que j'essaye de faire une partie de mon temps sur les bateaux de course. Pour donner des ordres de grandeur, aujourd'hui, traverser l'Atlantique avec un bateau en record, donc New York-Cap Lizard, c'est 3 jours, 15 heures. C'est juste dingue. Hein. Enfin, on arrive à traverser l'Atlantique avec... Alors, c'est un bateau de course, hein. C'est pas un bateau
pour
transporter
des
passagers ou transporter...
Oui, oui. Et puis donc, il faut quand même le skipper qui va avec, parce que je pense...
Voilà, et c'est un record, il faut les conditions voilà, météo, oui, etc. Mais grosso modo, aujourd'hui...
Mais 5 jours, quoi. Pour une période.
Ouais, avec un bateau de course, on va mettre grosso modo, suivant où on part, où on arrive, pour traverser l'Atlantique, on met à peu près une semaine. Et aujourd'hui, avec un bateau qui est fait, conçu, imaginé pour faire du transport de marchandises à la voile, on espère pouvoir le faire à peu près 2 fois plus de temps, mais grosso modo 15 jours, ce qui est à peu près un tout petit peu plus long que du transport maritime classique. Mais ce qu'il faut bien comprendre dans une chaîne logistique, c'est qu'il y a le temps de traverser, mais il y a aussi le temps à terre, en pré et post-acheminement, et qu'on espère et qu'on pense pouvoir optimiser sur des plus petits bateaux qui vont aller dans des ports secondaires, qui vont peut-être être parfois plus près de la production, ou du consommateur. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi optimiser en termes d'impact, hein, ce pré- et post-acheminement. Je vais donner un exemple, parce que je te trouve intéressant. Moi, je suis charentais d'origine. Je vis en Bretagne depuis quelques années, mais je suis charentais.
Moi, je suis bretonne et je vis à Paris.
Ah ben voilà. On a tous des chemins. Enfin bref, moi, je suis né au milieu des vignes charentaises. On fabrique du cognac, donc... Je suis dans le cognac gamin et le cognac est consommé énormément aux États-Unis. Donc il y a le volume de cognac produit en France, parce que le cognac par définition ne peut être que produit en France et largement exporté. Et donc la bouteille de cognac qui va être consommée aux États-Unis, en moyenne, c'est pas général, mais grosso modo, elle va monter sur un camion en Charente. Elle va passer en Allemagne, dans des centres logistiques, puis aller à Rotterdam pour monter sur un porte-conteneur, qui, lui, donc, va traverser l'Atlantique pour aller sur la côte est américaine, a priori plutôt à New York, et qui va ensuite reprendre un camion pour faire, potentiellement aux États-Unis, où quand même distances sont assez grandes, parfois quelques milliers de kilomètres, pour aller jusqu'au consommateur final. Et donc, un des vrais sujets, c'est se dire... avec des plus petits bateaux, hein, c'est ce qui est le cas sur notre positionnement avec des bateaux à la voile, est-ce qu'on ne pourrait pas se rapprocher du producteur, donc de la Charente, La Rochelle, Bordeaux, ou Le Havre, hein, en France, hein, qui est déjà plus près Rotterdam, et ensuite essayer donc, d'aller à New York, si le consommateur est à New York, mais pourquoi pas aller dans d'autres ports plus proches du consommateur. Et ça, c'est vraiment des réflexions logistiques alors, qu'il faut essayer de mener pour essayer d'en effet de minimiser les trajets qu'on peut faire avec les produits qu'on consomme.
Moi, j'aime bien quand tu me dis il faut accepter de ralentir, alors que toi, tu cherches à aller quand même toujours plus vite. Tu es quand même un compétiteur. Oh. Et justement, enfin, l'un de tes combats, tes premiers combats, puisque j'ai eu la chance de naviguer sur le trimaran Lazartigue, c'est quand même de réduire l'empreinte carbone, du moins en mer, de ces bateaux, et même lors de la construction, au maximum, parce que c'est quand même hyper polluant, et ça, tu le sais, enfin, je pense que tu œuvres au quotidien pour ça, en espérant aller toujours plus vite. Comment, aujourd'hui, tu fais ? Est-ce qu'on a des solutions ? Est-ce qu'on a des vrais matériaux ? Ou est-ce que ça reste vraiment très compliqué ? C'est un sujet.
Ouais, c'est un vrai sujet. En effet, donc la course au large, mon sport est un sport fabuleux qui utilise l'énergie du vent, et en effet, grâce au vent, on peut faire le tour de la planète, on peut aller loin à des vitesses assez fascinante, mais en effet, la construction de bateaux...
Oui, surtout toi, les vitesses fascinantes. Moi, ce ne sera peut-être pas la même chose.
En tout cas, en course large, voilà, c'est assez dingue. On va aujourd'hui, on traverse l'Atlantique en un peu plus de 3 jours, ce que je disais tout à l'heure. On va faire un tour du monde en 40 jours. Enfin, c'est quelque chose qui est assez fabuleux. Et par contre, c'est vrai que la construction de nos bateaux n'est pas neutre. Alors après, il faut toujours arriver à la pondérer, ce qui est extrêmement difficile.
C'est pour ça que t'es un G.
La construction, donc essayer de mesurer l'impact, donc la construction.
Ça, c'est hyper important. C'est déjà de mesurer.
Faire une ACV, arriver à avoir l'impact sur différents paramètres. Le plus classique, et souvent, c'est la tonne CO2, si on parle uniquement de réchauffement des règlements climatiques, mais il y a évidemment
plein
d'autres...
Et de déchets, parce que le but, c'est aussi qu'il n'y ait pas de déchets, en fait.
Et aujourd'hui, c'est une donc des difficultés du composite. Nos bateaux de course au large, grosso modo, sont construits en composite. Un composite, c'est quoi ? C'est un mélange entre une résine et une fibre. Donc la fibre, sur certains bateaux, elle est en carbone, qui est en effet une matière extraordinaire par sa légèreté, sa résistance, mais qui est un dérivé du pétrole et qui demande beaucoup d'énergie.
On n'aime pas le mot carbone,
pour la fabriquer. Après, je pense que c'est important de bien comprendre aussi l'intérêt que peuvent avoir certains composites, surtout sur des sujets de mobilité. Parce que grosso modo, je ne dis pas qu'on met du carbone partout, attention,
non,
vraiment
mais c'est
pas.
Comme le plastique, tu as tout à fait raison d'adresser le sujet.
Mais en fait, légèreté mécanique d'une fibre de carbone peut éventuellement, je mets bien beaucoup de précautions dans ce que je dis, parce que c'est léger, permettre éventuellement un objet, mais que ça, enfin, voiture, train, enfin bref, quelque chose qui se déplace, grosso modo pour déplacer de la masse, enfin plus on déplace de la masse, plus on a besoin d'énergie. Donc si on arrive à diminuer le poids d'une voiture, d'un train, d'un avion, d'un bateau, on peut utiliser moins d'énergie. Mais alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut faire des porte-conteneurs en carbone, c'est en fait, évidemment non. Mais
on en revient au calcul et à la balance justement, tu vois, là c'est tout à fait le même sujet qu'on a entre le verre et le plastique. C'est la même chose quand tu en parles. Tu vois, là, aujourd'hui, maintenant, on remet en question le verre parce que, justement, ça, c'est plus lourd, ça nécessite plus d'énergie dans le transport. Donc, peut-être que le plastique n'est pas fantastique. En fait, c'est très compliqué.
C'est complexe, c'est compliqué. Mais par contre, je pense que ce qui est hyper important, c'est d'être d'être le plus transparent possible et d'essayer de comprendre et de se remettre en cause. Et évidemment, nos bateaux de course en carbone, le carbone permet de faire des choses extraordinaires, mais il faut essayer de réfléchir. Alors, déjà, comment on peut le recycler? Ce qui est extrêmement compliqué, parce que par définition, c'est quelque chose où on mélange une fibre et une résine. Oui. Et donc, en général, ce qui est fait avec la même matière, l'aluminium, c'est plus facile de le recycler. Dès qu'on mélange, même dans les vêtements, par exemple, si on mélange dans un t-shirt, un pull, quoi que ce soit, différents matériaux, il faut arriver souvent à les séparer avant de les recycler. Donc, le composite, par définition, justement, sa qualité se fait par le mélange de deux matériaux avec des propriétés différentes. Et parce qu'ils sont ensemble, ont des propriétés mécaniques intéressantes.
Je sors d'une usine de recyclage de batteries de voiture, donc je vois très bien les trois trucs différents qu'ils ont craqués pour ensuite
faut
les
séparer.
C'est passionnant, mais en fait, c'est comme tu dis, c'est une question de transparence. Et je pense que chez Merconcept, tu essayes au maximum justement de limiter l'impact de tes bateaux.
Enfin, on essaye. Est-ce qu'on y arrive? Non, en tout cas, c'est un chemin. Parce que voilà.
Si tu avais la solution, je pense qu'on prendrait l'habitude de.
Oui, si la solution existait déjà, de toute façon. J'espère qu'on y serait tous. Il y a plein de choses à faire évoluer. Donc, il y a des choses qu'il faut remettre en cause, certaines habitudes qu'on peut avoir. Et puis après, il faut essayer de chercher à comment on peut remplacer. Donc, le carbone, essayer de trouver des filières, des solutions pour le recycler ou des filières pour le recycler. Trouver peut-être des composites différents. Je pense aux biocomposites sur lesquels on travaille beaucoup. Donc, utiliser des fibres naturelles à la place ou en lieu du carbone, par exemple. Et puis après, évidemment, réfléchir aussi aux usages qu'on peut avoir de nos bateaux. Donc, grosso modo, si on fabrique un bateau neuf, se poser la question du pourquoi on fabrique un bateau neuf, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Et derrière, essayer de faire un bateau qui va durer le plus longtemps possible, parce que c'est toujours pareil aussi dans les problématiques qu'il y a d'impact à la construction et de durée de vie d'un objet. C'est sûr qu'il faut... c'est souvent des dilemmes dans les vêtements, c'est pareil. Il faut arriver à fabriquer quelque chose avec le minimum d'impact, mais qui va pouvoir surtout durer le plus longtemps possible.
Le vêtement, le vintage, on peut le prendre. Toi, pour faire une course, un bateau vintage, je ne suis pas sûre qu'il soit hyper performant.
Oui, parce qu'on évolue, mais après, on peut aussi évoluer dans les usages. Et par exemple, les bateaux de course peuvent avoir une deuxième vie après la course, dans de la plaisance, ou pourquoi pas dans du transport maritime. Donc, il y a plein de choses à imaginer, à inventer. Et c'est vrai qu'il faut... y a beaucoup de remises en question à avoir. Et je pense que c'est important et super... c'est super important de toujours se remettre en question et essayer de trouver des solutions face à un challenge qu'on a là tous face à nous. Parce que c'est un vrai défi, c'est pour le coup. Là, je vais prôner la vitesse. Il faut qu'on soit rapide dans nos changements, dans nos transformations, dans... on ne peut pas rester statique.
Et toi, justement, je trouve qu'il y a quand même de l'impact dans toutes tes casquettes, parce qu'en tant que marin, qu'entrepreneur, tu es engagé. Ça a toujours été ton engagement, même quand tu étais dans les vignes de cognac. D'ailleurs, mon premier job, c'était chez Rémy.
D'accord.
Donc, je peux dire que j'en avais du cognac sur le bureau.
Ça, c'est ma casquette de marin, je pense, qui m'a permis, mais très très jeune, donc je n'étais pas vraiment marin, j'étais équipier du voilier familial, mais j'ai eu la chance, donc j'ai grandi dans les vignes et du coup dans la nature, quand même, je me sentais bien dans la campagne et dans la nature, et après j'ai eu la chance, enfant, à 6-7 ans, de voyager en famille, donc avec ma petite sœur, ma grande sœur et mes parents, sur un bateau de plaisance, et on a vécu un an comme ça sur un bateau. Et c'est assez intéressant. L'exercice du bateau est assez intéressant pour ça, dans la sensibilisation. J'avais 6-7 ans, c'est l'âge parfait où tu essaies de comprendre d'où vient la lumière, l'électricité.
Tu poses plein de questions
J'ai cette filière, j'aime bien la technique, je suis ingénieur de formation, j'aime bien comprendre comment les objets fonctionnent. Et l'exercice extrêmement intéressant quand on est sur un bateau, c'est qu'on est sur un système qui est quand même un petit peu isolé. C'est-à-dire que, par exemple, les problématiques d'énergie, sur un bateau, on n'est pas branché sur du 220, pompe à essence, etc. Donc, on est en autonomie d'énergie. On fabrique notre énergie pour, par exemple, avoir de la lumière la nuit. Et donc ça, quand on a 6-7 ans, quand on est dans une maison, c'est difficile de comprendre. On appuie sur un bouton, la lumière, elle arrive. Et donc, voilà, les notions d'autonomie, d'énergie, de consommer, consommer moins, combien d'énergie à bord. Par exemple, c'est, sur un bateau, c'est extrêmement intéressant parce que c'est un vrai exercice de sensibilisation et qui oblige à une forme un peu de sobriété. Parce que quand on est sur un bateau, bah, en effet, on n'a pas de l'énergie à profusion. Et du coup, il faut gérer son énergie, il faut gérer son eau, l'eau douce. Alors, il y a de l'eau partout, mais grosso modo, si on a sur un bateau avec des réserves d'eau douce, eh ben, on comprend bien que l'eau douce, c'est précieux. Et qu'on ne peut pas prendre une douche qui dure 10 minutes tous les jours. On est obligé de... Et donc ça, pour moi, jeune, ça a été une super sensibilisation, notion d'énergie, d'eau douce. Voilà, parce qu'on était dans un système fermé. Les déchets, c'est tellement... on vit dans un pays où c'est, entre guillemets, tellement facile. Tu as une poubelle, elle est ramassée, ça se fait presque automatique. Enfin, je veux dire, c'est... Il n'y a pas la contrainte. Quand tu es sur un bateau, bah, les déchets que tu produis, bah, tu les gardes et tu te rends compte qu'une famille à 5 sur un bateau, tu produis des déchets et qu'au bout de 15 jours, 3 semaines de traverser l'Atlantique, bah, ce n'est pas négligeable et qu'il faut essayer de les diminuer au maximum et faire en sorte que bah, quand tu vas faire tes courses, ton avitaillement avant de partir, tu te rends compte que bah, ça, en fait, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je pense que cet éveil, j'ai eu cette chance d'avoir cette sensibilisation là, très jeune, du fait de l'exercice de vivre sur un bateau. Et en tout cas, c'est un super... c'était un bon exercice, un peu pédagogique.
Et tu me parlais là d'autoconsommation d'énergie. Je ne sais pas, je suis en train de visualiser un bateau avec des panneaux solaires. Ce serait jouable, ça, ou pas?
Bien sûr. Bah, aujourd'hui, typiquement, là, sur le bateau de croisière familial, on avait ce qu'on appelle un hydrogénérateur. Donc, grosso modo, l'hélice, on avait un moteur hein, pour sortir du port. Et l'hélice, en fait, quand on avançait, elle tournait entre guillemets dans l'autre sens. Pour faire simple, c'est comme une petite éolienne qui est dans l'eau. Et avec la vitesse du bateau générée par le vent, on pouvait fabriquer de l'énergie. On avait aussi une éolienne, donc avec le vent. Voilà. On n'avait pas de panneaux solaires à l'époque, mais par contre, on en a aujourd'hui. Enfin, ça existait hein, déjà. Il n'y en avait pas sur ce bateau-là, parce qu'entre l'éolienne et l'hydrogénérateur, on arrivait à être autonome. Mais par exemple, mes parents continuent, on a la chance d'avoir un bateau et de vivre une partie de l'année sur un bateau. Et aujourd'hui, ils sont parfaitement autonomes avec les panneaux solaires. Mais ils consomment beaucoup moins d'ailleurs quand ils sont sur leur bateau que quand ils sont chez eux à la maison, où on a plus de surface, plus de... Puis voilà, on appuie plus facilement sur le bouton pour allumer la lumière.
En fait, ce serait bien d'envoyer pas mal de personnes sur des bateaux faire ce type d'expérience, ouais, peut-être pour sensibiliser.
Mais je pense qu'on s'en rend compte aussi, c'est tout bête. Hein. Alors, je ne dis pas qu'il faut qu'il y ait des coupures de courant, etc.
Non, mais là, on le voit.
Mais mine de rien, quand il y a une coupure de courant, eh ben, on réalise chez soi tout ce qui fonctionne avec l'électricité.
Exactement.
Et donc, alors, je prône pas qu'il y ait des coupures de courant ou qu'on soit rationné en eau, etc. Évidemment, non. Néanmoins, se retrouver même parfois momentanément pendant des vacances ou dans des endroits... Donc, le bateau, oui, mais ça peut être la même chose dans un camping-car ou quand on fait du camping, etc. Il y a plein de moments où on peut essayer de se sensibiliser à ça. Et je pense que c'est super important. Et peut-être, moi, j'ai eu la chance de le vivre enfant... Et je pense que c'est un super exercice pour les enfants bien comprendre certaines notions basiques, hein, énergie, eau, déchets. J'en mets que trois là. Évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais déjà, ces trois-là, bien les avoir en tête, c'est super important.
Peut-être aussi se sentir un peu plus vulnérable face à la nature et pas l'inverse. On a l'impression d'être tout puissant, alors qu'en fait, on est assez vulnérable. On le voit là avec les catastrophes hein, climatiques. Et comme tu le dis, on n'est pas ravis d'avoir des catastrophes pour nous le rappeler. Mais c'est vrai que ce sentiment, finalement, de vulnérabilité est peut-être aussi important à retrouver. Et parfois, on a quand même une population qui est majoritairement urbaine. Des enfants qui naissent sans voir la nature du tout, donc qui sont pas du tout sensibles à ça finalement.
Bah oui, c'est sûr. Et donc là, je reviens sur en effet cette chance que j'ai de naviguer. En effet, quand on est sur un bateau, alors on joue avec les éléments et ces éléments font des choses extraordinaires. Enfin, je reviens sur ce vent, comme truc génial. Mais grâce au vent, aujourd'hui sur un petit bateau avec une voile, on peut aller littéralement à l'autre bout du monde. On peut faire un tour du monde uniquement avec de l'énergie renouvelable. C'est quand même fabuleux. Et par contre, c'est loin d'être évident. Et en effet, ce phénomène naturel, parfois, il peut être extrêmement violent. Parfois, il peut être même dangereux. Donc, on peut s'en servir. Et en même temps, en effet, on est tout petit face, face à des éléments déchaînés. Et c'est en effet, c'est toujours des bonnes leçons d'humilité dont il faut jamais oublier la force et la puissance de la nature.
Bon, alors sur quoi on va te retrouver prochainement?
Toujours sur l'eau, parce que ça reste ma passion, ça reste ma vie, ça reste...
Tu fais d'autres trucs, j'imagine. J'imagine que tu fais tous les sports d'eau.
En général. Ouais, j'aime bien, ça fait partie un petit peu de ma vie, mais en effet, les sports de glisse et les sports d'eau, j'en ai besoin, ça fait partie de mon... Ouais, un peu de ma vie et de mon épanouissement. Donc, en effet, si je ne suis pas sur un bateau, on peut me retrouver souvent sur des foils, là, depuis quelques années. Donc, même en surf, en wing foil, toutes ces petites activités qu'on peut avoir la chance de faire près des plages, où le foil a un peu révolutionné notre sport, hein, le sport de la voile, et est en train de révolutionner beaucoup d'activités nautiques. Et alors pourquoi je parle du foil? Parce que ça, c'est intéressant. Alors ça, c'est une innovation. Encore, on met souvent du carbone pour fabriquer ces foils, etc. Ça peut avoir, dans certaines pratiques, des inconvénients, hein, pour le milieu naturel. Par contre, il y a quand même une notion d'efficacité que je trouve super intéressante. Parce qu'en fait, alors pourquoi sur un bateau à voile, sur un bateau de course, sur le trimaran Esvalazarti, pourquoi on met des foils? Le bateau donc s'appuie sur ses foils, comme vous imaginez, hein, comme des ailes d'avion. L'avion s'appuie dans l'air pour voler, nous on s'appuie dans l'eau. Ça crée une force verticale vers l'eau et ça permet au bateau donc de s'élever au-dessus de l'eau.
Oui, de voler.
Alors c'est un peu un abus de langage, il reste quelque chose dans l'eau. Hein. Mais pourquoi on fait ça? Parce que les frottements générés par ces foils sont moins importants que les foils générés par les coques du bateau. Donc du coup, sur un bateau à voile, avec la même énergie du vent qui est captée, on va aller plus vite. Pour moi, compétiteur, c'est génial. Pour essayer de battre des records ou gagner des courses, c'est fabuleux. Mais on peut aussi prendre la décision d'aller à la même vitesse. Et du coup, on a besoin de moins d'énergie pour se déplacer à la même vitesse. Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez fabuleux, qui me semble vraiment important de creuser, parce que ça peut s'appliquer sur des bateaux à moteur qui, du coup, vont utiliser moins d'énergie pour se déplacer à la même vitesse, et ou sur toutes ces petites activités nautiques, ou quelque part, par exemple, en surf, on a besoin de toutes petites vagues pour surfer avec un foil. En surf classique, ben, voilà, il faut quand même des vagues assez conséquentes. Donc, non, il y a vraiment une notion d'efficacité qui est intéressante. Alors, comme toujours, comme toute innovation, comme toute solution technique, il y a du plus et du moins. Enfin, faut pas.
Non, mais en fait, ce qui est hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il faut pas isoler les combats. Faut pas se dire on va faire un focus sur virer le plastique, le carbone, ou etc. Faut faire un focus sur minimiser l'impact global, tout en gardant l'efficacité, la qualité. Et donc pour ça, c'est un mix. Tu sais, on parle beaucoup de mix énergétique. C'est un mix de solutions en fait.
Exactement. Et c'est des questions qui dépassent la technique. Exactement. Aussi, parce qu'en effet, c'est des questions d'usage, c'est des questions qui vont dans le sens, dans la philosophie, où il n'y a parfois pas de réponse tranchée. Le besoin d'énergie, oui, on a besoin d'énergie, mais de combien? Est-ce que c'est des ingénieurs qui sont capables de savoir quelle énergie par personne, combien de lumière, etc.
Ouais, et puis, objectivement... Là, il y a du gaspillage. Il faut aussi qu'on reparle de sobriété pour l'énergie, clairement.
Grosso modo, voilà. Ça, à la limite, ça, c'est une question qu'on peut mettre côté technique. Le gaspillage, il ne sert à rien. Par définition, le gaspillage, il ne sert à rien.
Il y a quand même un besoin de sobriété de base.
Mais voilà, combien d'énergie on a besoin? Sur des problématiques de mobilité qui me sont chères, parce que la course au large et cette activité maritime que j'ai, elle répond potentiellement à des problématiques de mobilité. Donc voilà, il faut essayer d'être le plus efficace possible pour un besoin de mobilité, mais le besoin de mobilité, il faut le remettre en cause en permanence. Hein. Alors moi, je suis convaincu qu'on en a besoin de mobilité, donc on a besoin de se déplacer, on a besoin de s'ouvrir à l'autre, on a besoin de voyager, de s'ouvrir à l'autre. Mais c'est pas non plus... il faut de la mobilité à tout prix. C'est pas normal, on fait des choses qui sont aujourd'hui... Voilà, on ne peut pas voyager à l'autre bout de la planète en permanence, très rapidement. On ne peut pas consommer des produits qui font 10 fois le tour de la planète. Alors, ça ne peut pas marcher. Mais donc il faut vraiment se poser la question. Okay, alors, je n'ai pas la réponse, hein, si ce n'est une évidence, la diminution des mobilités.
Il faudra forcément une réglementation, parce qu'en fait, ce sera compliqué tout le monde de trouver son propre équilibre. On a tous des équilibres un peu selon nos intérêts.
Bah, il la faut, mais il faudra aussi probablement... faut pas l'attendre, la réglementation.
Bah, je sais bien.
Je pense qu'il faut, il faut que chacun... voilà, faire le mieux possible, chacun a sa réponse, chacun doit se poser des questions, chacun doit se trouver ses réponses, et puis essayer collectivement, évidemment, de trouver des réponses qui paraissent acceptables. Et voilà, mais de fait, c'est des questions complexes, un peu systémiques, très globales, et qui n'ont pas forcément, en effet, de réponses... précise, si c'est une direction vers laquelle on est tous d'accord qu'il faut aller, mais après il y a plein de chemins, il y a plein de façons de faire, et c'est pas simple.
Un petit mot de la fin, qu'est-ce que tu aurais envie de passer comme message?
Message, ça reste parce que je suis fondamentalement positif et optimiste.
Ouais, je vois ça.
Donc ça,
je suis passionné.
Je me dis que on peut, dans ces questionnements là on peut trouver des solutions. Et néanmoins, ça c'est mon côté ingénieur, la technique ne va pas tout résoudre. C'est une évidence aussi, il ne faut pas se cacher derrière la technique en disant il y a forcément des solutions à tout problème et on va pouvoir continuer à croître en termes d'usage, justement, d'énergie, de déplacement, de production. Non, ce n'est pas vrai. Rejetons toute solution technique, toute innovation, c'est ni mal ni bien, c'est important, on en a besoin, mais ça répond pas à tout, et il faut arriver à trouver espèce de compromis, et je suis convaincu qu'il y a beaucoup de choses extrêmement positives à trouver là-dedans.
Là, je te rejoins, et en fait, le GIEC le disait, c'est-à-dire que d'abord, sobriété, c'est sûr, mais ensuite, il va falloir décarboner, parce qu'en fait, on est trop tard dans l'urgence, donc pour décarboner, il faut de l'innovation.
Exactement.
Et de la tech for good. Merci beaucoup, François.
Merci.
Et prochaine course, juste, c'est quand?
C'est en pleine discussion en ce moment.
Ah, tu vas nous le dire.
Fin de la journée, peut-être j'en saurai plus.
Ok, nous, on le mettra comme ça dans le descriptif de l'épisode. Merci, François.
Merci.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, partager, mais aussi commenter le podcast. Un grand merci pour tous vos retours d'ailleurs. Nous les lisons avec intérêt et ils nous sont très utiles pour continuer à nous améliorer. À très vite dans l'empreinte.